Bonsoir, je vous demande de tourner dans vos Bibles, l'Évangile de Jean, chapitre 5. Nous allons lire le premier 16 versets, Évangile de Jean, chapitre 5. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brébis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelque fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc, le miracle que nous venons de lire, hein, et c'est peut-être le troisième miracle que Jésus l'a fait. L'évangile de Jean est écrit d'une manière pas chronologique, mais avec une intention d'enregistrer les choses que Jésus a fait pendant sa vie terrestre. Il raconte incident par incident. Avec le frère Michael Cole, nous avons vu que l'évangile de Jean soulignait les 7 « Je suis » que Jésus dit, et les 7 miracles de Jésus. L'évangile de Jean est écrit avec le seul but d'amener les gens à la vie spirituelle par la foi dans la personne et les œuvres et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous pouvons remarquer que le verbe « croire » est utilisé plusieurs fois dans l'évangile de Jean, qui demande une connaissance et de la volonté. La parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, c'est Jean 1:12. Et encore en Jean 3:16, nous lisons, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour citer le plus connu, ce miracle est raconté uniquement dans l'évangile de Jean, nous ne le trouvons pas dans les autres évangiles. Notre texte commence ainsi. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus se rend une nouvelle fois à Jérusalem. On constate que la différence des synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui parlent surtout de l'activité de Christ en Galilée, Jean concentre son attention sur son ministère en Judée et à Jérusalem. Pour comprendre pourquoi, nous devrions mettre ces choses dans le contexte de nos jours. Par exemple, nous voyons comment les journalistes font le reportage sur un fait qui se déroule dans un coin du monde. Même si l'histoire est la même, tous les journalistes ne racontent pas la même façon. Après cela, dans le premier verset, après cela, on peut dire après quoi? Regardons le verset 46 du chapitre 4, juste avant. 46, verset 46 du chapitre 4, qui dit, il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Jésus donna la guérison à cet enfant mourant. Ce fut le deuxième miracle de Jésus après la transformation de l'eau en vin dans le mariage de Cana. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour opérer des miracles et des prodiges. Il est venu pour sauver les pécheurs, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit aux officiers du roi de Capernaüm, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Cet homme crut en sa parole et son fils fut guéri. Alors nous allons étudier ce miracle de Jésus avec l'intention de trouver Jésus-Christ à travers de ce texte, dans sa beauté, le Fils de Dieu dans sa splendeur divine, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la parole, le premier verset dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. L'apôtre Jean parle d'ici une fête juive. Sa profonde connaissance de géographie et de coutumes juives rend clair que lui-même était un juif de Palestine. Jean mentionne ces détails au profit de païens qui vont devenir les disciples de Jésus. Les avis sont partagés sur la question de quelle fête il était. Le peuple d'Israël a été ordonné par Moïse pour observer plusieurs fêtes dans l'année. Il y avait des fêtes de Pâques, fête de Purim, fête de Pentecôte, fête de Tabernacle et la fête de la dédicace. Donc il y avait plusieurs fêtes. Et c'est le seul endroit où le nom de la fête n'est pas mentionné. Et plusieurs pensent, et certainement c'est la fête de Pâques. Si c'était la fête de Pâques, parce qu'on compte trois fêtes de Pâques pour le ministère de Jésus-Christ, hein, le 3 ans et demi. Mais si c'était une fête de Pâques, ça peut être plus, peut-être c'est 4 ans. Quoi qu'il soit, cette question n'est pas d'importance pour nous. Mais Jésus, en étant le Fils de Dieu, Dieu Jéhovah, qui a ordonné cette célébration, n'avait pas l'obligation d'observer aucune de ces fêtes, ni le sabbat. Mais nous voyons ici qu'il observait la loi de Moïse jusqu'au bout, pendant sa vie terrestre. Il rendait au temple au jour du sabbat et se trouvait à Jérusalem avec le peuple juif, avec son peuple, pour toutes leurs fêtes. Il obéissait la loi de Dieu, même si la religion du peuple juif était vide et pleine d'hypocrisie. Le prêtre et le souverain sacrificateur sont devenus des voleurs. Nous avons quelque chose à apprendre en regardant la vie de Jésus. Parfois même, quand les personnes chargées de célébrer les ordonnances de Dieu sont indignes, nous ne devrions pas nous abstenir de célébrer les ordonnances de Dieu. Quoi qu'il soit un baptême ou la table du Seigneur. Même si la personne qui célèbre, si vous considérez qu'il n'est pas digne, on ne peut pas nous abstenir d'obéir le commandement de Dieu. Nous serions bénis par rapport à notre état d'âme et non pas par le fait que la personne qui célèbre l'ordonnance de Dieu est digne ou pas. Obéir le commandement de Dieu est une obligation pour nous. Ce n'est rien à voir avec des autres. Rien à voir avec le métier ou bien d'autres excuses qu'on peut chercher. Parfois, il y a des personnes qui demandent le nom de prédicateur pour venir à l'église. Mais la parole nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Dieu honore sa parole et il est toujours présent, même quand il y a deux ou trois qui rassemblent l'assemblée en son nom. C'est Dieu honore sa parole et il est toujours présent. Même si nous sommes moins nombreux aujourd'hui, nous devrions être rassurés de ce fait que Dieu il est présent parmi nous. Croire et honorer la parole de Dieu et honorer Dieu. Et nous devrions être là quand le corps de Christ se rassemble. Passons au verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, ça c'est l'histoire. Jean nous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage. La personne que Jésus va guérir se trouve à Jérusalem. Il y a une multitude de gens en ce temps à Jérusalem pour la fête. On peut imaginer, c'est la capitale, et tout le monde vient à Jérusalem, et une énorme foule. Et Jésus, avec ses disciples, vient à Jérusalem aussi. Et nous ne sommes pas loin du temple de Jérusalem, près de la porte des brebis, certainement le lieu où se trouvaient les marchands de brebis. Les brebis pour le sacrifice, et Jean nous dit qu'il y avait une piscine ou un étang qui s'appelle Bethesda dans la langue hébreu. Beth, mais je pense que j'ai dit il y a 2-3 semaines, en hébreu veut dire maison. Bethléem, maison du pain. Bethel, maison de Dieu. Bethphagé, maison de figues vertes. Bethsaïda, lieu de pêche. Bethanie, maison de misère ou maison d'olivier, où se trouvait la maison de Lazare, Marie et Marthe. Et Bethesda, il y a certaines qui disent que c'est la maison de la source, parce qu'il y avait l'étang ou la piscine. Et des autres ils pensent que c'est le nom Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde ou grâce. L'apôtre Jean écrit cet évangile pour les Juifs, autant pour les païens. Les Juifs savaient exactement ce qu'il est en train de dire. La piscine de Bethesda avait 5 portiques et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques. L'excavation archéologique du 19e siècle conduite en Israël a révélé le fait historique et la véracité de la parole de Dieu. C'est exactement comme c'est écrit dans l'évangile de Jean. Ils ont trouvé les 5 portiques et la découverte archéologique, ils ont révélé ces faits. Voyez en grand ce que le péché de l'homme. Quelle scène pathétique et misérable quand on voit qu'autour de cet étang, il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques. Quelle scène pathétique et misérable. Imaginons un grand tableau où on voit que des malades, des boiteux, des aveugles et toutes sortes de maladies. Les gens de tout type de maladies, même si la parole nomme 2 ou 3, on parle de milliers de personnes sous ces portiques. Tous dans ce lieu, Bethesda, maison de la miséricorde. Et certains commentateurs, ils pensent que peut-être qu'il y avait 5000 personnes. Et d'autres, ils pensent que même il y avait 40 000 personnes sous ces portiques. Voyez en grand ce que le péché de l'homme amène dans ce monde. Tous ces mourants, dans leur souffrance extrême, attendaient autour de cet étang de Bethesda, la maison de miséricorde. Ce que la chute de l'homme a amené dans ce monde, ça nous suffira d'aller dans un hôpital pour comprendre la misère du péché. Les enfants qui meurent, qui n'ont jamais commis le péché consciemment. Il y a quelques temps, l'année dernière, je pense que mon fils, il était avec l'Institut Gustave de Villejuif, avec un projet de son école, mais il nous a raconté comment il a vu des petits enfants de 4-5 ans qui jouaient sans savoir qu'ils vont mourir dans quelques temps, quelques jours. Ils sont jamais commis le péché consciemment. Mais nous devrions voir ce que le péché il a fait pour l'humanité, dans le monde. Le visage horrible du péché qui amène de millions chaque jour à la mort. C'est souvent les gens, ils posent la question, mais pourquoi Dieu le permet ces choses? C'est mon péché, c'est notre péché. C'est le péché de nos pères. c'est le péché d'Adam et Ève. Et pourtant, comment l'homme peut aimer et continuer à commettre le péché? Et même ceux qui disent chrétiens, qui continuent de professer d'être des enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, on peut commettre le péché, on commet le péché. La souffrance de Jésus sur la croix devrait nous pousser à haïr le péché. Les souffrances immenses visibles à nos yeux quotidiennement devraient nous pousser à haïr le péché. Quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, la parole nous dit qu'il pleura. Jésus n'a pas pleuré pour Lazare car il savait qu'il va être ressuscité. Jésus pleura par compassion pour ceux qui souffraient à cause de la mort. En voyant face à face ce que le péché a engendré dans le monde, Jésus pleura. Et nous, continuons-nous toujours d'aimer et chérir le péché? Nous pouvons prier pour tous les malades dans le monde. Souvent, les enfants, ils prient. Je prie pour tous les malades dans le monde entier. On peut prier, même les grands, parfois on prie. Mais continuer dans nos péchés, rester dans le péché. Que le Seigneur nous donne un dégoût pour haïr le péché et le monde. Et dans le passage, nous lisons, qui attendait le mouvement de l'eau, verset 3, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Depuis la chute de l'homme, il y a la maladie, la souffrance et la mort. C'est toujours le cas et ce sera toujours comme ça. Les hommes désespérés attendaient l'intervention divine dans leur vie. Et c'est pour cette raison, en France, il y a des milliers ou millions de personnes qui visitent la Lourdes pour des guérisons, pour atténuer leurs souffrances. Le verset 3 et 4 est difficile à comprendre et expliquer, mais ce que nous savons est que les milliers attendaient la guérison dans ce lieu de Bethesda pendant des années pour une intervention divine, abandonnée par les hommes, sans qu'ils sachent quand et comment ils seront guéris. Ils attendaient désespérément. Verset 3, le grand nombre de malades illustre bien l'état spirituel lamentable dans lequel se trouvait le monde. Le grand nombre de malades. Le tout premier manuscrit omet ces paroles qui semblent avoir été insérées ultérieurement pour expliquer pourquoi l'eau de la piscine était agitée. Les gens croyaient que c'était un ange qui venait agiter. Selon une tradition locale, le premier qui descendait dans l'eau était guéri. Cependant, la Bible n'enseigne nullement ce genre de superstition. Qui rêvait, en effet, l'aspect d'un concours des plus cruels pour bon nombre des malades. L'apôtre Jean nous rapporte simplement la situation dans laquelle ce misérable être humain se trouvait, que Jésus va guérir. La loi de plus fort est la loi du monde. La théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui enseignait la survie de plus fort, qui justifie l'élimination de presque 6 millions de juifs en Allemagne, et bien d'autres par Hitler. Même aujourd'hui, il y a des millions de bébés qui sont avortés et des malades sont éliminés au nom de l'euthanasie. Dans la loi de Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous savez que Matthieu 12, 20 dit, il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. Je trouvais dans la version Darby, tel est notre Dieu de compassion. Là se trouvait, verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? malade depuis 38 ans. Vous vous rendez compte? Quelqu'un malade, alité, qui ne peut pas bouger pendant 38 ans. La femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Un homme aveugle de naissance. Tous attendaient de la maladie du péché depuis le sein maternel. La parole nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. On peut imaginer un peu l'état de cette époque avant l'avènement de Jésus dans le monde. Il y avait pas de, pendant 400 ans, il y avait une ténèbre, il n'y avait pas la révélation de Dieu, il n'y avait pas un miracle, il n'y avait pas un prophète, il n'y avait pas de prophétie. Il y avait un silence total de la part de Dieu. Le peuple marchait dans le ténèbre. Mais le verset 6 nous dit que Jésus, l'ayant vu couché, imaginons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur qui passe par le chemin de cet pauvre homme qui est couché depuis 38 ans. Dieu même, il passe par le chemin de cet homme. Je ne sais pas si ça existe en français ou pas, il y a un hymne anglais qui dit « Pass me not, O gentle Savior ». Passez pas par moi, mon sauveur, mais quelque chose comme ça. Écrit par Fanny Crosby. Regardons ce que Abraham il a dit. Je vais lire pour vous en Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il se leva les yeux, il regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et prosterna à terre. Et il dit, verset 3, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Il voit Dieu passer dans son chemin, dans sa chemin. Donc, Abraham, il plaide avec le Seigneur. Seigneur, ne passe point loin de ton serviteur. Et aussi, nous connaissons ce que Job il a dit. Je le verrai, il me sera favorable, mais mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Et un autre serviteur qui voulait tant voir Dieu, il a tant désiré de voir Dieu. Je parle de Moïse, bien sûr. Et en Exode 33, verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Mais avec toutes ces choses que nous avons vues, est-ce que nous imaginons ce qui était révélé à cet homme paralytique qui était couché pendant des années, et même les hommes ne le regardaient pas certainement. Il était complètement négligé, abandonné par les hommes. Mais Dieu lui-même, il passe par son chemin. Il passe juste devant lui. Nous avons vu un Dieu qui connaît, qui nous regarde. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. L'homme malade depuis 38 ans a vu passer beaucoup de personnes devant lui sans jamais adresser même une parole. Et par sa, les impuissants devant sa maladie. Toutes ces personnes qui sont passées, ce n'est pas le paralytique qui était impuissant, mais des autres qui ont vu cet homme, ils sont tous étaient impuissants aussi. Car personne ne peut donner la guérison à cet homme. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, et le psalmiste l'a décrit dans son psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres loin de ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. » C'est le même Dieu qui voit regarder cet homme. Il savait qu'il était malade depuis 38 ans, depuis longtemps. Nous lisons dans le texte que l'homme est malade depuis 38 ans. Nous ne connaissons pas son âge. Simplement, nous savons qu'il était malade depuis 38 ans. Alors l'homme est dans son état, même avant que Jésus soit né dans ce monde. Jésus, il avait 33 ans quand il était crucifié. Et nous lisons ici qu'il savait qu'il était malade depuis longtemps. L'omniscience du Fils de Dieu nous a été révélée par Jean. Donc le but de Jean, c'est révéler que Jésus est le Fils de Dieu. Donc Jean, il montre qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Et on peut croire que Jésus est omniscient, il connaît toutes choses. Est-ce que nous conduisons de la même façon? Est-ce que nos conduites disent que Dieu est omniscient? Mais parfois, notre foi, il fait le contraire. On ne pense pas que Dieu le connaît mes problèmes. Je ne parle pas comme si Dieu le connaît toutes choses. Je ne me conduis pas comme si Dieu le connaît toutes choses. Il connaît ma vie, il connaît mon cœur. Et Jésus, il pose une question à cet homme. Veux-tu être guéri? Quelle question? Quelle question poser à un malade qui souffrait dans sa maladie depuis 38 ans? Nous, les êtres humains, posons des questions par ignorance. Souvent, nos questions sont par ignorance. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu qui connaît toutes choses. Veux-tu être guéri? Certainement, les gens ont posé des questions en voyant l'état de cet homme. Comme les disciples de Jésus, ils firent cette question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit malade. Donc, certainement, beaucoup de gens se sont posé des questions en voyant cet état de cet homme. Lui-même, pendant ses 38 ans de maladie, aurait posé beaucoup de questions sur son existence, sa maladie, son péché, la mort, la miséricorde et grâce de Dieu. Mais en ce jour, c'est Jésus, le Fils de Dieu, lui-même, qui passe devant lui pour cette question. Quelle grâce! Veux-tu être guéri? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est lui qui vous pose cette question. Veux-tu être guéri? Quand Dieu pose cette question à nous, nous devrions répondre en toute honnêteté. Nous devrions premièrement accepter notre maladie, notre besoin pour être guéri. Un médecin ne peut jamais soigner un malade qui ne reconnaît pas sa maladie. On est d'accord? Nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de la guérison, nous avons besoin d'accepter notre maladie et dire à Dieu nos problèmes avec le péché. Que mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Comme ce malade qui confesse son incapacité de trouver la guérison. Verset 7, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » La parole nous dit, le psaume 34, verset 6 à 7, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas d'honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Savons-nous que nous sommes précieux dans ses yeux? Nous sommes chacun précieux pour lui, lui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Le verset 8, « Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marche. Le Seigneur dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Lève-toi, ce n'est pas un conseil, mais c'est un commandement. Combien de fois nous préférons de rester dans l'endroit ou situation que nous trouvions. Souvent, on peut murmurer, ou on peut grogner, ou on peut dire ça ne va pas, mais nous préférons rester dans l'endroit où nous sommes. Le Seigneur voit Élie dans un gouffre et dit, que fais-tu ici, Élie? Il nous demande de lever. Lève-toi. Cet homme, il a attendu très longtemps, plusieurs années. Et les gens, ils attendent pour voir un signe ou un miracle, pour venir à Dieu. Et ils attendent quelque chose de spectaculaire, un grand miracle. Mais il le néglige, il oublie que Dieu lui-même, il est aussi près d'eux, tout près d'eux. Il est simplement à la porte, il est en train de frapper. Il dit, voici, je tiens à la porte et frappe. Et ce soir, Dieu est tellement près de nous. Et Dieu le passe devant nous, dans notre chemin. Et c'est à nous de nous descendre de notre trône. Parfois, on est assis sur un trône de soi-même. On a mal à descendre pour répondre à Dieu. La puissance de sa parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Les médecins de ce monde peuvent dire quelque chose d'encourageant seulement s'il y a d'espoir sur le malade. À nous, ils disent qu'il n'y a pas de solution pour la maladie dans la médecine. Et ce que le répond pour indiquer une intervention divine. Mais la puissance de la parole de Dieu ne dépend pas de notre état. Il peut donner la vie pour les ossements séchés, comme nous lisons en Ézéchiel 37. Notre confiance n'est sur notre propre capacité, mais sur la puissance de Dieu. Il est un Dieu omnipotent. Il peut tout faire. Rien n'est impossible pour lui. Croyons-nous vraiment sur l'omnipotence de Dieu, alors confions notre vie dans ses mains. Et on va sauter un peu. Regardez le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme, il était guéri aussitôt. Ce n'a pas pris quelques mois, ce n'a pas pris quelques heures ou quelques jours. Il était guéri aussitôt. Cet homme, il se lève, il prend son lit, il marche. Et nous voyons que il y a des gens, les juifs, ils viennent tout de suite, ils posent des questions. Il dit, tu n'as pas le droit de marcher. Il y a beaucoup d'humeur. Ils disent que pendant toutes ces années, l'homme n'était pas capable de marcher et personne n'a donné la main puisqu'il peut lever. Certainement, personne ne l'a aidé. L'homme lui-même, il dit que personne ne peut m'aider puisque je peux jeter dans l'eau. Mais quand il marche, quand il obéit la loi de Dieu, quand il obéit le commandement de Dieu, tout de suite, les autres viennent et disent que tu n'as pas le droit de faire ça. Mais qui t'a demandé de faire ça? Et je pense que souvent, on peut rencontrer cette situation quand on veut marcher avec Dieu, quand on veut marcher pour Dieu, vivre pour Dieu, témoigner pour Dieu, et tout de suite, les gens ils viennent, tu n'as pas le droit de faire ça. Ils viennent empêcher. Donc, nous devrions faire attention. Et ici, dans le verset 14, on trouve ici que l'homme, il était dans le temple. Et Jésus trouve cet homme dans le temple. Et nous, les chrétiens, nous devrions poser cette question à nous-mêmes. Si nous étions vraiment guéris, nous devrions être où? Dimanche matin, mardi soir, pour une autre réunion. Nous devrions être... Il est où notre place? Nous sommes comme les 9 autres lépreux qui étaient guéris, qui n'étaient pas reconnaissants. En Luc 17, nous voyons Jésus prenant la parole dit, les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Donc, cette question, c'est pour nous. Et si nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous étions exactement comme cet homme. Il était complètement incapable de guérir lui-même, de faire quelque choix, quoi que ce soit pour lui-même. Il était sans aide, mais le Seigneur, il a jeté son regard sur nous et nous étions guéris. Mais comment nous démontrons notre reconnaissance à notre Dieu? Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit, il marche. Et il a obéi Dieu. Et certainement, il était béni, cet homme, parce qu'il a écouté la voix de Dieu, il a obéi. Et la parole nous dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 30 à 31. Prions.